Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. 30 minutes pour parler cinéma. Nous reviendrons sur la cérémonie des Césars avec le traditionnel montage pour faire un résumé de cette soirée. Mais nous allons aussi parler de films avec toi, Sophia.
Oui, je vous parlerai du documentaire de la Marocaine Asmaï El-Moundir, La mère de tous les mensonges.
Et puis toi, un film vainqueur à Berlin.
Vainqueur. Il a eu le grand prix du jury, contre toute attente, le nouveau film de Bruno Dumont, L'Empire.
Quant à Guillaume, il nous parlera de In the Lands of Saints and Sinners. Et nous allons commencer tout de même avec Dune, partie 2, film très attendu. Que va faire Paul Atréides qui doit choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers?
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Ce monde est d'une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Y compris mon père.
Ton père ne croyait pas à la vengeance.
Ça y est, la deuxième partie de Dune est arrivée sur les écrans. Alors un grand moment pour ceux qui avaient tant apprécié la partie 1 servie par Denis Villeneuve. Le réalisateur québécois a repris l'histoire là où il l'avait laissée. Hein. Paul Atréides, qui a vu sa lignée quasiment anéantie par les Harkonnen et l'Empereur, se rallie aux Fremen, le peuple du désert, tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors il se rapproche également de Shani, la jeune Fremen. Il y a donc plusieurs récits. Celui de l'adaptation d'un étranger à une culture qui n'est pas la sienne, celui d'un jeune homme qui découvre l'amour, celui encore d'un univers régi par la politique dont les ficelles sont tirées par les redoutables diseuses de vérité, les Bene Gesserit, dont fait partie la mère du jeune Atréides.
Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir. Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs. Parce que tu perds le contrôle. Parce que je le prends.
Denis Villeneuve a appliqué avec soin la méthode de la première partie en peaufinant le monde de Dune avec le désert, ses grottes, ses vers géants, ses habitants redoutés et le monde des combats avec ses vaisseaux spatiaux ou celui des vilains Harkonnen fait de coins sombres, de noir et de gris. La grande qualité de Dune est l'utilisation discrète des effets spéciaux, une grande partie de l'intrigue s'en passe et tout cela ne peut que combler le spectateur qui a aimé la partie 1. Pour cette deuxième partie, trois grands thèmes sont abordés dans le récit, hein, l'histoire d'amour entre Paul, Timothée Chalamet et ses mèches et la rayonnante Shani, interprétée par Zendaya. Il y a aussi la construction d'un messie attendu par un peuple à qui les Bene Gesserit ont livré une histoire toute faite avec des signes de plus en plus prometteurs. Stilgar, Javier Bardem, qui incarne un des chefs des Fremen, eh bien pousse son peuple à voir en Paul Atréides son sauveur quand le jeune homme n'y croit lui-même pas. Entre la prophétie construite par les Bene Gesserit et les enjeux politiques, Denis Villeneuve accentue la réflexion sur les jeux de pouvoir, qu'ils soient au sein de l'univers ou sur cette planète Dune qui contient l'épice qui, on le rappelle, eh bien permet de voyager dans l'espace.
Je me fiche que tu n'y crois pas, moi j'y crois. Je suis Paul Moiti Atréides, duc d'Arrakis.
Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle.
Nouveauté pour cette deuxième partie, au Messie correspond un antagoniste chez les Harkonnen avec Fett Rota, interprété la boule à zéro comme tous les Harkonnen par celui qui portait la banane pour Elvis, Austin Butler, un personnage inquiétant, aussi sauvage qu'imprévisible, le contraire de Paul qui suit des visions qu'il tente toujours de clarifier. Dune est un monde précieux, Denis Villeneuve est un fabricant d'images qu'il est tout autant. Dune partie 2 est en salle depuis le 28 février. Après une grande saga littéraire adaptée à l'écran, voici une grande saga filmique qui se retrouve dans le Pas-de-Calais. C'est le pari peut-être osé de Bruno Dumont. Nous parlons de l'Empire.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Et dans son proche.
Sire, vous voici enfin parmi nous.
Ne tardons pas.
Bruno Dumont poursuit sa veine excentrique commencée en 2013 avec Petit Quinquin dans un lâcher-prise réjouissant qui ne ressemble à rien d'autre dans le paysage cinématographique français et peut-être même ailleurs. On se demande même où il va chercher tout ça. Pourtant, en soi, le scénario de l'Empire, d'un manichéisme ironique, s'empare des codes de la SF la plus simple, binaire même, comme ces zéros qui incarnent le peuple du bien, les progressistes un peu bénis-oubliés et les uns, les méchants, belliqueux et hédonistes. La référence au code bit informatique n'est sans doute pas un hasard, marqueur de la technophobie du réalisateur. Alors, dans cette configuration de deux entités extraterrestres opposées, l'Empire galactique est perturbé par la naissance d'un enfant qui représente pour les uns le Messie et pour les zéros une entité démoniaque. Cet enfant s'appelle Freddy et renvoie donc directement au personnage du premier film de Bruno Dumont, La vie de Jésus, faisant alors de son nouveau film une préquelle, mais alors sans vraiment de cohérence temporelle. Les deux camps s'affrontent entre celui régi par Belzébuth, logé dans un vaisseau spatial qui ressemble à un palais royal symbolisant le pouvoir politique, et celui dirigé par la reine galactique, abritée dans un vaisseau mère au design de cathédrale.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine, ici sur la Terre.
Vous avez pas vu un ovni ?
Un quoi ?
Un ovni.
Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière.
Alors pour grossir encore le trait, Dumont, plus sale gosse que jamais, fait des forces du bien un univers alors globalement féminin et celle du mal, le fer de lance de la masculinité, tout en les renvoyant dos à dos sans prendre de pincettes. Il prend même un malin plaisir à fustiger notre monde contemporain qui voit d'un côté des réactionnaires fantasmer un monde en perdition et puis des progressistes qui deviennent de plus en plus aveuglés par leur quête de vérité sans nuance. Alors cette guerre des étoiles se déroule dans le nord de la France, dans un petit village de pêcheurs, sous les yeux crédules des habitants, et puis aussi des deux enquêteurs de Petit Quinquin. Alors, sorte de private joke en forme d'autocritique, parce que c'est un peu comme quand les producteurs de Star Wars font revenir des vieilles figures pour un caméo. Et je pense que Dumont le fait dans ce sens-là, parce que c'est très frustrant. Ils apparaissent, mais ils ne font quasiment rien. C'est assez bizarre.
Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre.
Celui qui touche à mon Freddy, il y a deux pieds à sa gueule.
L'entreprise est vouée à l'échec.
La gendarmerie sont de coup.
Mais les humains, Johnny, sont nuls.
Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
So what?
Dès la première image, un plan large en plongée absolument sublime, aucun doute n'est permis. Le talent de Bruno Dumont est intact. Il sait filmer les paysages comme personne, capter l'essence d'une topographie dont lui seul possède le secret dont il est difficile à expliquer. Et en même temps, un film de Dumont est immédiatement reconnaissable. La beauté visuelle du film s'étend jusqu'aux effets spéciaux, très crédibles, tant au niveau des maquettes, des costumes que des effets graphiques, assurant l'impression que le réalisateur a pris son projet très au sérieux, soignant particulièrement la forme, même s'il s'amuse à dérouter constamment le spectateur avec un montage jouant sur la frustration. En effet, on attend parfois des séquences, des répliques qui n'arrivent jamais, ou une intensité qui fait volontairement pchit. Rêverie poétique et absurde, alors entre un romantisme désuet, avec l'idée que seul l'amour peut nous sauver, et puis une forme de méchanceté brute, les humains sont tous des cons. L'Empire n'est jamais aussi puissant que lorsqu'il assume sa part d'enfance dans une première partie délirante et ludique qui met en scène des gamins qui se battent comme dans une cour de récré. L'héroïne ressemble à Lara Croft, les combats au sabre laser ressemblent eux à un spectacle de fin d'année. Les péripéties pour kidnapper Freddy, alors ça touche au génie, on rentre dans une maison, on capture Freddy et puis on re-rentre dans une maison pour le remettre à sa place. Enfin, ça, c'est, y a un côté très presque burlesque. Et puis certains dialogues récités sont directement empruntés à Star Wars.
Disons la force, on a la sagesse.
T'as pas peur du démon, toi ?
J'ai surtout pas peur des hommes.
C'est quoi, ça ?
C'est une belle bande de losers.
C'est peu de le dire.
On s'en prend plein la gueule.
À la bataille !
Dans ce joyeux bordel organisé, les comédiens sont en roue libre, alors particulièrement Fabrice Luchini. Alors visiblement pas vraiment dirigé. Je pense que c'est un petit problème. C'est-à-dire qu'il est un peu en dessous, je trouve, des autres. Alors les autres, entre les professionnels et puis les amateurs, créent une atmosphère bizarre, complètement dichotomique, une sorte de cacophonie où chacun joue sur un registre différent. Alors si le film s'essouffle peut-être dans un dernier tiers un peu trop évident pour du Dumont, et s'il commet une ou deux fautes de goût, dont une séquence de baisers forcés ses problématiques, bon, à la portée évidemment provocatrice, L'Empire reste un film passionnant, drôle et surréaliste. Alors on va dire entre Bresson, La Soupe aux Choux et L'Empire contre-attaque. Voilà, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Une œuvre singulière qui parvient à émouvoir sans qu'on on sache vraiment bien pourquoi. Une émotion donc si on est bien sûr sensible au cinéma radical de l'auteur de L'Humanité.
L'Empire de Bruno Dumont, qui reviendra peut-être avec un Empire contre-attaque, mais j'en doute, est en salle depuis le 21 février. Liam Neeson interprète un homme qui doit s'absoudre d'une vie de péché, mais ça castagne moins que d'habitude. C'est In the Land of Saints and Sinners.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Le cas de Robert Lawrence est très intéressant puisque l'évolution de sa carrière semble avoir complètement influencé le ton, la direction et donc la réussite qu'est In the Land of Saints and Sinners. Alors, son nom ne dira rien de spécial au grand public et cela semble bien normal hein, parce qu'il s'est d'abord illustré en tant que producteur de tous les films de Clint Eastwood depuis Créance de sang en 2002 jusqu'à Sully, hein, ce qui veut dire qu'il a su observer et épauler au plus près le travail d'une légende du cinéma américain sur des genres comme le polar teinté de vengeance avec le bijou noir Mystic River, le drame intimiste avec le bouleversant Million Dollar Baby ou encore les dilemmes moraux hein, de personnages ni tout blanc ni tout noir, comme dans les biopics J. Edgar ou American Sniper. Passé à la réalisation en 2012 avec Une Nouvelle Chance mettant en scène Clint Eastwood dans un film oubliable mais solide, il s'est depuis entiché d'une autre figure virile mais également sensible, l'également très iconique Liam Neeson avec Le Vétéran en 2021 et donc ce In the Land of Saints and Sinners hein, dont il est question aujourd'hui et qui est son meilleur film à ce jour.
Finbar Murphy. I'll have something else for you in a week or so.
Dans la petite ville côtière de Glencombsill, hein, située en Irlande, un assassin décide de raccrocher les armes. Alors Finbar, hein, joué par Liam Neeson, en a marre de la violence, même si les contrats qu'il a fait hein, tout au long de sa vie ont fait la joie de son compte en banque. Quand il voit hein, comment un jeune homme comme Kevin, hein, joué par le transfuge de la série Game of Thrones, Jack Gleeson, lui prend son pied sans remords hein, lorsqu'il appuie sur la gâchette, il comprend que sa vie de péché hein, ne mène à rien et qu'il lui faut arrêter ses activités violentes avant qu'elle n'ait complètement raison de lui et de sa sensibilité. Sa reconversion en jardinier dans ce petit coin de paradis, hein, alors tiens, ça fait penser au anti-héros hein, du dernier film de Paul Schrader, hein, Master Gardener, il aurait eu plus de chances d'aboutir hein, si nous n'étions pas en 1974 que les terroristes de l'IRA ne faisaient pas régner la terreur avec leur attentat et que l'un de ces groupes hein, n'avait pas décidé de se cacher dans ce petit hameau après l'explosion d'une bombe ayant tourné au massacre, laissant des enfants sur le carreau. Alors là où ça devient intéressant, hein, c'est que ce petit groupe hein, n'est pas mené par n'importe qui, mais par Dorian McCann, interprété par Kerry Condon, qui a une foi aveugle en sa cause et qui ne laissera personne se mettre sur son chemin. Alors Dorian hein, est tellement convaincu du bien fondé de ses idées et des conséquences extrêmes de ses actes hein, qu'elle en oublie tout sens moral et toute sensibilité. Pour elle, les victimes sont nécessaires, les innocents des dommages collatéraux et, même si parfois la tâche est dure, elle n'hésite quand même pas à faire couler le sang de civils pour atteindre ses objectifs. Finbar va vite comprendre que les nouveaux arrivants du village sont louches et un engrenage mortel va s'enclencher alors qu'il va décider d'en éliminer un en toute discrétion, passant outre son vœu de non-violence. Mais Dorian n'est pas du genre commode et dès lors qu'elle va se mettre en tête de retrouver l'assassin de son frère, tout le village va être témoin d'un déchaînement de violence comme il ne pensait plus en connaître depuis la Seconde Guerre mondiale.
I've seen enough killing for a lifetime. You're at your end.
Alors autant le dire tout de suite, hein, car je vous vois venir, hein, non, In the Land of Saints and Sinners n'est pas une Liam Neesonnerie de plus, hein, un de ces films d'action stupides qu'on se tape avec lui à l'affiche depuis l'énorme succès de Tekken en 2008. Alors s'il est devenu une sorte de nouveau Charles Bronson depuis 15 ans, il arrive que de petites pépites sortent du lot hein, tout en défendant fièrement la bannière du film d'action, hein, comme Le Territoire des Loups hein, ou Balade entre les tombes. Alors au détour de ses productions, Neeson prouve à chaque fois le brillant acteur hein, qu'il est hein, et sa présence magnétique supporte tout le film. Le bonheur est qu'ici, il a un très bon casting et en plus il y a un antagoniste qui sait être aussi charismatique et impactant que lui en la personne de Kerry Condon, hein, absolument parfaite en vengeresse ayant perdu pied à force de servir une cause violente. Les deux personnages se répondent bien évidemment en miroir, chacun étant le reflet ensanglanté de l'autre, et tous les deux cherchent une rédemption dans une foi coincée entre les hommes et les dieux qui lie intrinsèquement les saints et les pécheurs. Alors, Irlande oblige, on pense forcément à de très grands polars 70s, plutôt british, comme La loi du milieu avec Michael Caine et déjà un vieux fusil délivrant Les derniers sacrements, et on ne peut ici que saluer le montage de l'un des monteurs attitrés de Robert Zemeckis, Jeremiah O'Driscoll, qui achève de faire du film de Robert Lawrence un très agréable spectacle qui serait dommage de rater.
In the Land of Saints and Sinners est diffusé à partir du 1er mars sur Prime Video. Nous parlons maintenant de la 49e cérémonie des Césars du cinéma qui s'est déroulée le 23 février 2024.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Il faut croire que j'ai des goûts très consensuels, car deux des trois films que j'ai retenus dans mon top 2023 sont les deux qui ont été les plus primés pour ces Césars 2024, à savoir Anatomie d'une chute, qui a fait une radia prévisible, le film vainqueur de la Palme d'Or, a décroché 6 Césars, dont celui du meilleur scénario, meilleur film, de la meilleure réalisation et meilleure actrice, autant de catégories qui concourent, il est vrai, à réussir un bon film. Et Anatomie d'une chute est une de ces réussites comme on en voit peu. Quant au Règne animal, autre grand vainqueur de la cérémonie 2024, le film de Thomas Cayet a reçu 5 Césars, mais seulement dans les sections techniques, excepté la musique. L'Académie a eu de l'oreille, tant la musique d'Andrea Laszlo de Simone est sensible, relevée, organique et parfois mélodique. La cérémonie a été marquée par la prise de parole de Judith Godrèche, par les Césars d'honneur pour Christopher Nolan et Agnès Jaoui. Parmi les incongruités, il y a eu cette rengaine avec les mêmes films qui trustent toutes les nominations, à croire qu'il y a 8 films par an. Le paroxysme de cette sélection étrange fut l'exploit de l'Académie qui, dans la catégorie actrice dans un second rôle, a placé 4 actrices du même film, Je verrai toujours vos visages en compétition. Alors, sans trop de suspense, c'est une de ces actrices qui a remporté le César, Adèle Exarchopoulos. Là où les votants ont complètement foiré leur coup, me semble-t-il, c'est sur le César du meilleur film d'animation. Mars Express, avec ses 200 000 spectateurs, était un film d'animation inhabituel, de science-fiction, audacieux et français. Ils ont préféré un film d'animation à 20 000 entrées, Linda veut du poulet, énième métaphore sur le deuil. On peut aussi se demander si c'est si audacieux de donner le César du meilleur film étranger à Monia Chokri, quand en face, il y a Nolan, Wenders, Coris Maki et Bellocchio. Le choix n'était sûrement pas facile. Bon, c'est l'Outsider qui l'a remporté. Nous écoutons un résumé très léger de cette 49e édition des Césars.
Bien, ouvre tes oreilles.
Enfin, je ne quitterai pas ce plateau sans louer celles et ceux qui font bouger les us et coutumes d'un très vieux monde où les corps des uns étaient implicitement à la disposition des corps des autres.
Et pas sur le bec.
Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à...
Adèle Exarchopoulos.
Merci d'avoir... de nous avoir ouvert ce film, cet enjeu, d'avoir mis en lumière les travailleurs sociaux.
J'estime que le public a le droit de tout savoir, le meilleur et le pire.
Le César de la meilleure adaptation est attribué à...
Valérie Donzelli et Audrey Diwan.
Eric, j'ai aimé ton livre. Merci de nous avoir fait autant confiance, de nous avoir permis de l'abîmer comme tu nous l'avais autorisé.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ceci.
Et le César des meilleurs décors est attribué à... Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires.
Ce nouveau challenge a été colossal. 2 films, 1 an et demi de travail acharné, passionnant et créatif.
Ah mon Dieu, mais c'est terrifiant.
Et le César du meilleur premier film revient à...
Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand.
Un film, ça, c'est pour moi une œuvre collective, de sa conception à sa sortie en salle.
Enfin, comme d'habitude.
Le César du meilleur film de court-métrage d'animation est attribué à...
Été 96.
Je voudrais dédier ce César à mes parents, qui m'ont toujours soutenue et permis de faire ce métier que j'aime.
La famille, c'est chiant.
Le César du meilleur film d'animation est attribué à...
Linda veut du poulet.
On voulait vous dire que nous avons voulu faire ce film pour le dédier aux enfants.
Désormais, je ne voulais plus grandir d'un pouce.
Le César de la meilleure révélation féminine est attribué à... Ella Rumpf, dans Le Théorème de Marguerite.
Merci à Anna, qui a réalisé Le Théorème de Marguerite.
Hey, beau travail, hein ?
Et le César de la révélation masculine est attribué à Raphaël Quenard.
Mon frère et ma sœur, ils ont accompagné chaque jour de ce chemin laborieux qui mène jusqu'à ce pupitre, quand bien même ce n'est qu'une réalisation espoir, donc révélation, donc il reste tout à faire et j'en prends bonne note.
J'en suis certain.
Je vous remercie encore. Écoutez un peu.
Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. Juste une égratignure sur la carcasse de notre curieuse famille. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d'assaut comme une ville assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d'une équipe, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans.
Je ne veux ni réclamation ni plainte.
Et le César du meilleur court-métrage de fiction est attribué à L'Attente, réalisé par Alice Douard.
Ce court-métrage, L'Attente, c'est l'histoire de deux femmes en couple qui attendent un enfant. Et j'ai souhaité créer une représentation qui me semblait manquante.
Je n'ai rien contre le principe, mais... quel était le problème ?
Un César d'honneur au réalisateur Christopher Nolan.
Croyez-vous que je considère cela comme une récréation ?
On peut même dire qu'il a créé un nouveau genre cinématographique, le cinéma quantique.
C'est votre opinion, vous avez le droit de l'avoir.
Thank you, Marion.
Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup à l'Académie.
Je t'en prie, cache ta joie. Enfin, c'est pas grave.
Et le César des meilleurs effets visuels est attribué à Thierry Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret pour Le règne animal.
Le César du meilleur costume est attribué à
Ariane Dora pour Le règne animal.
Alors, le César du meilleur son est attribué à Fabrice Osinki, Raphaël Soyer, Mathieu Fichet, Miss Barletta pour Le règne animal.
Le César de la meilleure photo est attribué à
David Caillé pour Le règne animal.
Et le César de la meilleure musique originale est attribué à Andrea Laszlo de Cinema.
Le règne animal.
Vous êtes en train d'essayer de semer le doute dans mon esprit ?
César d'honneur à l'actrice, scénariste et réalisatrice Agnès Jaoui.
Quand elle est arrivée au cours, elle voulait jouer que des rôles d'hommes.
C'est un peu plus féminine, ça te ferait pas de mal, hein ?
Ouais, bah je viendrai en jupette la prochaine fois.
Enfin, je disais ça pour être aimable.
Bah ça doit être le manque d'habitude, j'ai été surprise justement.
C'est un montage. C'est rudement bien fichu alors, mais c'est possible.
Votre geste me touche. Je le prends comme un signe d'estime et d'amitié.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Merci.
Le César du meilleur film documentaire est attribué à
Les filles d'Olpha, réalisé par Karl Kervenhaier.
On vit dans un monde où les criminels de guerre paradent en toute impunité, alors que quelqu'un comme Julian Assange, le meilleur d'entre nous, croupit en prison.
Le César du meilleur film de court-métrage documentaire est attribué à La mécanique des fluides.
Si je n'avais pas la chance d'être ici ce soir, je serais dehors avec mes camarades féministes.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Le César du meilleur film étranger attribué à Sam comme Sylvain, réalisé par Monica Chokri.
I'm so sorry, Mr. Nolan. That was another...
Monsieur
that
Nolan,
really
je suis
unexpected.
Désolée, je ne m'y attendais vraiment pas.
Mais pas du temps.
Le César du meilleur montage est attribué à
Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute.
Pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, Swann Arlo dans Anatomie d'une chute.
Le César de la meilleure actrice est attribué à Sandra Hüller
dans Anatomie d'une chute.
Mais c'est pas normal, ça. Mais je suis allemande, qu'est-ce qui se passe ?
C'est là toute la beauté de la chose.
Le César du meilleur scénario original est attribué à Justine Trier et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à
Justine Trier pour Anatomie d'une chute.
Le César du meilleur film est attribué à L'Anatomie d'une chute.
On a essayé de toucher quelque chose de vrai en toujours valorisant l'imperfection, l'ambiguïté, la complexité. Et cette liberté-là est la chose la plus précieuse pour moi. Et car c'est la seule façon de faire des films qui soient des prototypes. Donc merci à vous.
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Voilà, rendez-vous en 2025 pour un nouveau montage autour de la cérémonie des Césars. Ça permet de faire un petit résumé.
présenté Un certain regard à Cannes en 2023. Il y a remporté le prix de la mise en scène. Nous parlons de La mère de tous les mensonges.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Film réalisé, écrit et monté par la Marocaine Asmaël Moundir, La mère de tous les mensonges a remporté, comme tu le disais Vincent, le prix de la mise en scène Un certain regard à Cannes en 2023, L'œil d'or, prix du documentaire à Cannes encore, ainsi que l'étoile d'or au Festival international du film de Marrakech. On peut dire que le film a fait grande impression avec son petit monde miniature. À l'origine de ce projet, une frustration anime la jeune cinéaste qui a grandi dans une maison où aucune image, aucune photo d'elle, enfant ou de ses parents, n'existe. Seul trônait au mur la figure sacrée du roi Hassan II, un portrait royal comme on en trouve partout au Maroc, dans n'importe quel commerce, de l'échoppe minuscule, aux bâtiments officiels, cafés de quartier ou halls de grands hôtels. Dans les lieux publics, tout du moins. Chez Asmaël Moundir, pas d'album, pas de photos de famille donc, et beaucoup de dissimulations et de mensonges autour du rapport à l'image et à la représentation de soi, mais aussi au sujet du récit familial. Prétextant que la création d'images et particulièrement de photographies est interdite par la religion, la grand-mère d'Asmaël Moundir est à l'origine de cette interdiction à la maison. Alors, sans images, sans support visuel, quid du souvenir ? Pour pallier à cette absence de photographies comme reliquat d'histoire familiale et pour encourager les langues à se délier, des maquettes sont construites. Autant de poupées, petits personnages miniatures qu'il y a de membres de la famille, sont également modelés. On voit dans le film qu'Asmaël Moundir n'hésite pas à faire couper par son père une mèche de ses propres cheveux pour qu'il puisse s'en servir sur une des poupées qui la représente. Et puis donc des figurines à l'effigie de son père Mohamed, de sa mère Warda qui a fait les costumes et de l'acariâtre grand-mère Zara sous la coupe de qui le trio nucléaire a vécu. Les voisins mitoyens ont également leur place dans ce monde miniature, les vivants, les morts aussi. Deux dispositifs sont utilisés comme support pour rejouer les souvenirs dans l'atelier d'Asmaël Moundir et de son père Mohamed, qui est celui qui bricole tout ce microcosme, au détail près, avec une grande sensibilité plastique. On a d'abord une reconstitution du quartier, où ils ont vécu ensemble, dans la Médina à Casablanca. Reconstitution qui donne à voir la rue, l'espace public du dehors, un espace collectif rythmé par les façades colorées des maisons, qui décline l'identité des différents habitants et propriétaires qui se cachent derrière. À cela s'ajoute une seconde reconstitution qui nous permet de voir en dedans. Il s'agit du dispositif de la maison de poupée, bien connu du cinéma et des studios. Celui-ci fait disparaître les façades et les toitures pour dévoiler les espaces domestiques, côte à côte. Nous voilà donc en coupe dans des appartements éventrés pour mieux y cerner l'intériorité des foyers et les dynamiques qui s'y jouent. Dans une société, la société marocaine, donc, où justement la dichotomie entre le privé, le public, l'intime et le politique est bien marquée. Avoir ces deux mondes qui dialoguent visuellement s'avère extrêmement riche, puisque à mesure que l'histoire familiale est rejouée et petit à petit démêlée, intramuros, l'histoire nationale au dehors, celle qui a marqué la rue et le peuple marocain dans ce quartier précisément et plus largement sur tout le territoire, est révélée en parallèle. Ces va-et-vient combinent histoire personnelle et plurielle en questionnant le rapport du Maroc à sa propre mémoire. Un événement est particulièrement mis en lumière, les émeutes du pain, durant les années de plomb et plus précisément en 1981. Un soulèvement populaire donc contre l'augmentation du prix de la farine, violemment réprimé par les autorités, faisant plus de 600 morts et volant les corps aux familles. Un événement qui a touché de près la famille de la réalisatrice. En invitant chacun de ses proches dans son atelier, en leur cédant leurs propres figurines pour qu'ils puissent rejouer leur histoire, la cinéaste crée un véritable huis clos de la révélation. Les versions subjectives de l'histoire personnelle et collective sont rejouées devant la caméra et devant les autres membres de la famille. Des souffrances et traumatismes enfouis trouvent enfin un auditoire et un exutoire. En ce lieu, les barricades de silence, de secrets, de mensonges des uns et des autres tremblent et cèdent avec fracas. Tous munis de leur propre avatar, les proches ne sont pas forcément prêts à lâcher, mais ils semblent avoir tous attendu presque une vie entière pour pouvoir enfin adresser leurs souvenirs refoulés, ceux du peuple marocain, et déposer les souffrances associées. De cette manière, Asmaël Moundir redonne à chacun de l'entremise la possibilité de se raconter et honore la multiplicité des points de vue tout en rétablissant les vérités. Un acte très puissant, généreux et émouvant qui donne toute sa force à ce métrage dont on ne peut ressortir indemne du visionnage. La blessure de la grand-mère, sa souffrance incommensurable, raison pour laquelle elle a rejeté toute photo, se trouve révélée durant le tournage à sa cinéaste de petite fille et à nous autres spectateurs. C'est la raison qui l'a endurcie et l'a rendue si intransigeante avec sa famille. Et la dictature qu'elle leur a imposée en véritable tyran fait écho à la monarchie chérifienne. L'absence d'archives familiales renvoie à l'amnésie nationale et à cette absence d'archives officielles. Finalement, sous l'aspect enfantin et ludique des dispositifs miniatures, le film dénonce un régime sanglant en perçant les abcès des mensonges officiels et de leurs corollaires culturels et personnels.
La mère de tous les mensonges de Asma El-Moudir est en salle depuis le 28 février.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec un grand réalisateur, Manu.
Oui, Michael Mann, après 9 ans d'absence, avec donc Ferrari.
Et putain, Sophia, tu nous parleras d'un film allemand.
Oui, La salle des profs.
Et moi, je vous parlerai d'une comédie, c'est 14 jours pour aller mieux, avec Maxime Gasteuil. À la semaine prochaine.